Vous êtes sur RTL.
Et oui, RTL Monde, c'est l'actualité sans frontières, 24 heures dans le monde, avec vous, Christophe Decroix, bonsoir.
Bonsoir.
Et à la une, le leader nord-coréen aurait fait exécuter son émissaire spécial pour les États-Unis.
C'est ce qu'affirme en tout cas un journal sud-coréen, Kim Yok-chol, qui avait fait tout le travail préparatoire avant le sommet de Hanoï entre Kim Jong-un et Donald Trump, aurait été fusillé pour avoir trahi le leader suprême. Apparemment, il aurait été accusé d'avoir été retourné par les États-Unis. Il faut se souvenir que ce sommet avait été un échec, puisque les deux dirigeants s'étaient séparés sans être parvenus à un accord. Il n'y avait même pas eu de déclaration commune, que ce soit sur le désarmement nucléaire ou la levée des sanctions. Quatre autres hauts responsables du ministère des Affaires étrangères auraient été fusillés avec lui. Quant à l'interprète de Kim, qui n'aurait pas traduit l'ultime proposition du leader nord-coréen, elle aurait été envoyée dans un camp de travail. Alors, des informations à prendre toutefois avec précaution. La presse sud-coréenne a déjà, dans le passé, fait état d'exécutions au nord qui se sont avérées fausses.
Les Philippines renvoient des tonnes de déchets au Canada.
Oui, 69 conteneurs ont quitté le port de Subic Bay au nord de Manille à bord d'un cargo destination le Canada. Des tonnes de déchets reçus il y a déjà plusieurs années. Ça faisait l'objet d'un contentieux entre les deux pays. Les Philippines ne veulent plus être, avec d'autres pays d'Asie du Sud-Est, les décharges du monde occidental. Comme le Canada a tardé à reprendre ses déchets en décomposition, le président Duterte a décidé d'appareiller un navire pour les renvoyer à l'expéditeur en menaçant de les déverser dans les eaux territoriales canadiennes s'il ne les reprenait pas. La Malaisie compte, elle aussi, renvoyer 450 tonnes de déchets plastiques vers plusieurs pays. Selon le Fonds mondial pour la nature, près de 300 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année. L'essentiel finit dans des décharges ou dans les océans.
Et puis alors, une entreprise russe lance un marathon de la féminité qui fait sérieusement jaser.
Oui, Tatprof, une société basée dans le Tatarstan, propose pendant un mois une prime à ses employées féminines si elles viennent travailler en jupe et bien maquillées.
D'accord.
Cette société est spécialisée dans les profils extrudés en aluminium, ne me demandez pas ce que c'est, a pris cette initiative pour embellir les journées de travail. La porte-parole de l'entreprise explique que beaucoup de femmes mettent un pantalon. Elle espère donc que ce marathon permettra aux dames de sentir leur féminité et leur charme. La prime sera d'€1,40 par jour.
Bon, ça va, c'est pas trop non plus.
Hein. Voilà. Alors, on est rassuré en apprenant que le port des pantalons ne sera pas interdit. Notez que l'entreprise est composée à 70% d'hommes. On attend donc avec une certaine impatience de savoir à quoi va ressembler le marathon de la masculinité.
Ah oui, on peut l'imaginer, non ? On vient travailler en Marcel, vous voyez.
Ou en jupe, si vous voulez, hein, Vincent.
Ouais, ça vous va très bien.
C'est l'idée d'un homme. Hein.
Merci, Christophe.
Bonne soirée.
RTL Monde. Vincent Parisot.
Et maintenant, le grand format d'RTL Monde. L'ONU a déclaré 2019 année internationale des langues indigènes. Le président bolivien Evo Morales était présent et il a fait un discours lors de la cérémonie de lancement à New York. La Bolivie qui compte 36 langues officielles. Et si pendant des décennies, il était mal vu de parler l'aymara ou le quechua, par exemple, aujourd'hui, on peut dire qu'un vent nouveau souffle sur le pays. Tiens, par exemple, avec l'aymara, qui serait parlé par 1 400 000 personnes dans le pays. C'est un reportage signé Alice Campagnol.
Wojtek est allemand et il est en plein cours d'aymara, une langue parlée dans les Andes, une langue native, parlée déjà du temps des Incas. Si Wojtek a décidé de l'apprendre, c'est pour une raison bien précise.
Je participe à un projet de recherche sur les effets de la pollution du lac Titicaca. Donc je travaille dans une communauté là-bas, autour du lac, et il faut que je sois en mesure de bien communiquer avec les gens. Donc j'apprends l'aymara.
Sa professeure Brigida, comme c'est souvent le cas ici, a appris l'aymara avant de parler l'espagnol qu'elle a découvert à l'école.
J'ai appris l'aymara dès ma naissance. J'ai grandi avec mes grands-parents et avec ma grand-mère surtout, qui ne savait parler que l'aymara.
Dans cet institut en plein cœur de La Paz, Brigida donne essentiellement des cours à des étrangers. Mais en réalité, ils sont encore nombreux, les Boliviens, à s'intéresser aux langues originaires. Comme Hakiaru, un collectif qui travaille, entre autres, à la traduction d'applications en aymara. Et ils ont logiquement commencé avec Facebook. Edwin est le président de l'association. Il explique que les réseaux sociaux font beaucoup de bien aux langues natives.
Jusqu'à mon entrée à l'université où j'ai pris des cours d'aïmara, je ne savais pas écrire l'aïmara. Je le parlais, mais je ne l'écrivais pas. Et aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, j'améliore énormément mon écriture. Les images humoristiques partagées sur Facebook, les conversations sur WhatsApp, tout ça, on le fait en aïmara. Et aujourd'hui, eh bien, je me défends.
Et désormais, il existe plusieurs applications mobiles pour apprendre l'aïmara. Il semblerait donc qu'en Bolivie, il y ait de l'espoir quant à la transmission des langues originaires.
À suivre dans RTL Soir, la deuxième édition du journal.
Oui. Et vous savez avec qui?
Alex.
Voilà, Alexandre de Saint-Aignan, tout de suite sur RTL.
RTL Soir.